Libradio, le côté obscur de la radio. Retrouve les directs, les podcasts et la newsletter sur www.libradio.org.
Bonjour Claude, ouais, voilà, merci. Alors voilà, je vais commencer par une petite citation. Et puis ensuite, Claude, je viendrai vers toi. Alors, le Al-Aouda, ancien pêcheur, trace sa route bravement avec de petits incidents de moteur, ce qui ne l'empêche pas d'être plus rapide que les voiliers Freedom et Falastine. Nous les attendons justement à l'heure où j'écris. Sur le Al-Aouda, nous sommes 22, rassemblant 14 nationalités. Ce qui est le plus frappant, c'est que la très grande diversité des parcours et des investissements militants prioritaires ne nuit en rien, voire nourrit notre entente commune sur la raison d'être des flottilles et la manière de mener au mieux notre mission. Aujourd'hui, j'ai pu à nouveau joindre deux amis proches à Gaza et ils témoignent de l'attente de la flottille. On veut y croire, même si la marche est très haute, pour être au niveau d'un mouvement suffisamment puissant pour faire reculer la marine de guerre, la fait renoncer aux actes de piratage qu'elle pratique sur les flottilles depuis 2010. Si nous sommes arraisonnés et emprisonnés, nous assumons totalement. Mais il reste 4 jours de route, 4 jours pour rendre cet acte de déni de droit plus difficile. Nous naviguons, à vous d'ouvrir la route par vos actions. C'est le journal de bord de Sarah depuis la flottille de la liberté. Depuis donc la position du Al-Aouda le 26 juillet au matin. Voilà, alors nous sommes en compagnie de Claude qui va se présenter et nous allons parler justement de cette flottille, de la flottille pour la paix à Gaza qui est en route en direction de Gaza. Alors bonjour Claude.
Bonjour.
Alors voudrais-tu nous dire qui es-tu toi, que fais-tu dans le cadre de cette action qui mobilise toutes ces personnes et cette flottille de, si je ne me trompe pas, de 4 bateaux?
Trois, à vrai dire, mais je vais en parler. Oui, alors moi, je suis impliquée dans le mouvement de solidarité en France, avec la Palestine en France depuis très longtemps, et je faisais partie de la flottille 2010-2011. Et là, je coordonne, en fait, pour la France, la flottille de la liberté 2018, c'est-à-dire que j'ai, avec d'autres évidemment, organisé toutes les escales, que ce soit de Al-Aouda ou bien des voiliers qui sont descendus par les fleuves et les canaux. Et bien entendu, je continue de suivre jusqu'au bout cette flottille extrêmement courageuse et déterminée, d'autant plus que nous avons à bord 2 Français, dont Sarah, qu'on vient d'entendre, enfin dont on vient d'entendre le journal. Et donc l'autre Français, c'est un marin qui est sur Freedom, qui s'appelle Pascal. Et évidemment, nous les accompagnons de nos voeux pour qu'ils arrivent jusqu'à Gaza, sachant que les autorités d'occupation israélienne ont déjà fait savoir qu'ils n'avaient pas l'intention de les laisser passer. Et c'est pourquoi il est important, bien entendu, de faire connaître le plus possible et partout l'engagement de ces militants et ces militantes qui est un engagement basé uniquement sur le droit des peuples, la justice et la paix, et non pas du tout sur quelques motivation violente ou autre. Hein. C'est une mission totalement pacifique.
Tout à fait. Alors, on va peut-être justement le rappeler, mais Gaza vit sous embargo depuis plus de 11 ans. Alors, qu'est-ce que ça implique, que cet embargo, effectivement, concernant les eaux territoriales, c'est qu'on ne peut pas y approcher, en fait, c'est ça. Donc, ni les Gazaouis ne peuvent sortir, ni les personnes qui souhaiteraient y pénétrer ne peuvent le faire.
Absolument. Alors, les eaux territoriales, théoriquement, c'est 20 000, hein, selon les accords d'Oslo de 93. Ça n'a pratiquement jamais été respecté par la marine d'occupation, puisqu'elle limite y compris l'accès à la pêche des bateaux de pêcheurs, qui sont souvent limités à 9, voire 6, voire 3 000 marins des côtes, c'est-à-dire des endroits où ils ne peuvent plus pêcher, il n'y a plus de poissons hein, d'ailleurs. Et puis, ça veut dire qu'aucun bateau palestinien n'est autorisé à quitter Gaza. Très récemment, deux tentatives ont été faites par les Gazaouis pour faire sortir des blessés graves qui avaient besoin de soins à l'étranger et qui ont été évidemment attaqués et arraisonnés par la marine israélienne. De même, nos bateaux à nous, depuis de très longues années, parce que les flottilles, il y en a depuis 2008, en fait depuis 10 ans, puisqu'effectivement le blocus a commencé réellement en 2007, donc ça fait maintenant plus de 11 ans. Donc, nos bateaux, à chaque fois, sauf en 2008, ont été interceptés, kidnappés en haute mer. Hein. On a été victime d'actes de piraterie en haute mer. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire les pratiques israéliennes. Et l'objectif des Israéliens étant évidemment de maintenir le blocus hermétique sur Gaza, mais de décourager aussi toute solidarité avec les Palestiniens de Gaza et de laisser la bande de Gaza dans une situation de délabrement sanitaire, médical, économique, humain, évidemment, absolument épouvantable, et de créer une situation de désespoir qui amènerait les Palestiniens à se coucher. Mais en quoi les autorités israéliennes se sont plantées de A à Z? Les Palestiniens ne se sont jamais couchés devant la répression.
Absolument. Alors tu l'as dit, il y a eu plusieurs flottilles. Y en a-t-il qui ont réussi dans leur mission ou ont-elles toutes été avec, on pourrait effectivement citer cet épisode qui était un fait, une apogée de l'horreur en 2010 où là, clairement, il y a eu, comme tu l'as dit, des actes clairement de piratage.
Ah oui, oui. Oui, alors il y a en 2008, la flottille de la liberté qui s'appelait à l'époque Free Gaza, et parce qu'on n'avait pas encore pris la dimension totalement internationale qu'on a connue après, a réussi à passer. Et ça a donné un tel élan, une telle bouffée d'oxygène aux Palestiniens de Gaza qui ne vivaient que depuis un an sous blocus, que les autorités israéliennes ont décidé qu'il n'était pas question que ça se poursuive et que donc la flottille suivante, avec le fameux navire turc, le Mavi Marmara, et d'autres plus petits bateaux, a été extrêmement violemment attaqué par les commandos aéroportés israéliens qui ont attaqué le navire de nuit et qui ont tué 10 personnes à bord.
Exactement.
C'est un véritable crime de guerre qui a été commis par Israël à ce moment-là, toujours dans le but de dissuader complètement la solidarité avec les Palestiniens de Gaza et d'écraser Gaza. Mais ça n'a pas découragé du tout le mouvement de solidarité internationale, puisqu'en 2011, nous sommes repartis. Et à ce moment-là, en France, nous étions très, très impliqués. Nous avions une campagne populaire extrêmement puissante, puisque nous avons pu engager deux bateaux dans la flottille de 2011, dont le Dignité, qui est arrivé au large de Gaza. Moi, j'étais à bord à l'époque. Et nous avons été attaqués à 34 ou 35 000 marins des eaux palestiniennes, donc en eau internationale, hein, ce qui est illégal, c'est vraiment de la piraterie. Et alors la pratique courante malheureusement des autorités d'occupation, c'est on fait monter des rambos surarmés, vêtus tout de noir avec des lunettes de visée, etc., et des gros fusils sur le bateau, qui sont des bateaux civils bien sûr, nos bateaux, et on s'en empare à la force du fusil, on kidnappe les gens qui sont à bord du bateau, que ce soit l'équipage ou les participants. On les amène de force en Israël, où ils n'ont aucune intention d'aller. Hein. Notre intention n'a toujours été que d'aller en Palestine, bien sûr. Et au bout d'un moment, on les expulse les uns après les autres. Donc on est dans un véritable cas de piraterie, comme je le disais, mais aussi de kidnapping des personnes.
Oui, alors effectivement, comment est-ce qu'après justement de tels actes de piratage, on arrive à juste continuer à retourner, remettre en route encore une flottille? Est-ce que vous en avez tout de même tiré, parce que c'est effectivement, il s'agit de crimes, là, comme on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez tiré des enseignements? Est-ce que depuis, vous vous préparez d'une certaine manière à affronter l'horreur, le pire? Comment est-ce que ça se passe? Je veux dire, en termes même de préparation physique, mais également d'autodéfense ou d'avocat pour éventuellement ensuite le soutien en cas d'incarcération suite aux arraisonnements. Enfin, tout ça, j'imagine que c'est une organisation également.
Ah, bien sûr. Bien sûr, il y a au niveau de la flottille, de la coalition internationale de la flottille, il y a un comité de pilotage qui se réunit très régulièrement par les moyens de technologie moderne, et là qui est en réunion quasiment tous les jours d'ailleurs, hein, et qui détermine, il y a des gens de tous les pays concernés à bord de ce comité de pilotage, et qui détermine la conduite à tenir. Mais je voudrais d'abord réinsister sur le fait que à chaque fois il y a des gens qui sont prêts à repartir, des citoyens, des citoyennes du nord de l'Europe, des Amériques, d'Afrique du Sud, d'Océanie, etc., d'Europe évidemment, parce qu'il est hors de question de laisser la force militaire d'une puissance occupante prévaloir contre le droit des peuples, notamment le peuple palestinien en ce qui nous concerne, bien sûr. Donc malgré les risques, malgré le danger qui est réel, il y a toujours des militants, des militantes, des personnalités, des journalistes qui sont prêts à prendre ce risque-là pour dire que ce blocus est illégal, que la politique israélienne est criminelle et que les peuples doivent se donner la main, en l'occurrence. Alors, pour la préparation elle-même, Eh bien, c'est comme je le disais à l'instant, c'est une mission, elles ont toutes été des missions complètement pacifiques, non violentes, etc. Et nous avons un entraînement de nos équipages et participants, enfin, puisque je ne suis pas à bord cette fois-ci, à la résistance non violente, c'est-à-dire comment faites-vous si un militaire surarmé s'en prend à vous, quel geste surtout ne pas faire, comment refuser de céder à la provocation. Enfin, il y a tout un enseignement à la résistance non violente, strictement non violente, qui se tient évidemment. Et puis nous avons aussi toute une équipe qui s'occupe de l'aspect juridique des choses. Nous avons des avocats, dont une avocate israélienne, qui défend très régulièrement les Palestiniens, qui sont prêts à agir si nos amis et camarades sont kidnappés et amenés de force en Israël. Donc on craint évidemment que ça arrive, et à ce moment-là, les mesures sont prises d'abord pour intervenir auprès de tous les consulats et ambassades des pays concernés, dont les ressortissants sont à bord, et puis au niveau du traitement juridique, les démarches à faire quand on est dans ce type de situation. Donc tout ça, c'est en place, ce qui n'empêche pas que nous sommes évidemment inquiets, inquiets pour eux, inquiets pour nos bateaux aussi, sachant que la violence israélienne est une constante dans son rapport avec évidemment les Palestiniens, mais aussi le mouvement de solidarité avec les Palestiniens.
D'accord, j'ai bien compris. Donc tout ça, effectivement, c'est un travail de longue haleine, et malgré tout, eh bien, oui, comme tu l'as dit, les personnes sont là, toujours présentes et toujours prêtes à prendre sur elles pour cet acte de solidarité.
Absolument. Très oui. Bien. C'est un travail qui se fait sur des mois, hein, bien sûr, en amont. Il faut compter environ un an pour mettre tout sur pied. Oui. Il faut trouver les bateaux, il faut trouver les équipages, il faut trouver toute la logistique. C'est très, très complexe, c'est très long à mettre en place. Mais une fois que c'est parti, ça ne peut être arrêté que par la force coloniale, en fait. Et cette force coloniale, elle est illégale, bien entendu.
Oui, tout à fait. Alors dis-moi, quels sont les signaux qui sont émis et que vous avez pu capter des différentes rives du côté palestinien-gazaoui? On l'a bien compris, on sent que là, il y a une impatience à voir cette flottille réussir dans sa mission. Du côté d'Israël, y a-t-il une réponse répressive gouvernementale, mais y a-t-il quand même du soutien parmi la société civile peut-être? Et qu'en est-il de la communauté internationale?
Alors, je vais commencer par la communauté internationale. Elle est dramatiquement silencieuse, comme à chaque fois qu'Israël est concerné. Au mieux, on sait qu'on a des paroles vagues de condamnation, du blocus, de la colonisation, mais des actes, il n'y en a pas, et il manque cruellement, parce que tant qu'Israël est assuré de l'impunité, il n'y a aucune raison qu'il change sa politique, qui est une politique criminelle. Côté population israélienne, nous avons bien entendu des soutiens. Ouais, nous avons les anticolonialistes israéliens appuient évidemment cette flottille. Il y a d'ailleurs à bord Yonatan Shapira, qui est un ancien pilote d'élite d'hélicoptère de l'armée israélienne, qui depuis longtemps maintenant a compris quelle était la logique dramatique de son gouvernement et qui le combat, et qui est donc sur le bateau. Il est sur Al Aouda. Et nous avons aussi des soutiens en Israël, à terre, j'entends. Et puis, côté palestinien, à Gaza, c'est évident qu'ils attendent. Ils savent très bien que le risque que nous n'arrivions pas est grand, mais leur attente est peut-être d'autant plus tendue, je dirais, parce que pour eux, cette bouffée d'oxygène dont je parlais par rapport à 2008, elle est tellement indispensable maintenant que ce sera une grosse déception, évidemment, si nos bateaux n'arrivent pas. Mais ils sont payés malheureusement aussi pour savoir que la volonté coloniale d'Israël est telle que, bon, le risque est fort que nous n'arrivions pas. Ils savent néanmoins que ça met en évidence leur situation absolument inacceptable. Et c'est un des enjeux de cette flottille. C'est que, parce que parfois on nous demande, mais pourquoi vous repartez puisque vous n'arrivez pas? Oui. Parce que partout où l'on passe, absolument partout, nous faisons connaître la situation de Gaza, l'illégalité du blocus, la situation de la Palestine en général, hein, bien sûr, mais particulièrement de Gaza. À toutes les escales, nous organisons avec les camarades localement, les amis localement, des manifestations, des rencontres. Et nous estimons cette fois que, entre toutes nos escales, entre toutes nos interviews, entre tout ce que nous avons pu élaborer en termes de réseaux sociaux, nous avons touché environ 1 million de personnes sur cette chenille. Si ce 1 million de personnes a bien reçu l'information et peut la relayer, on peut faire un travail réel de pression sur nos autorités. C'est ça qu'il faut chercher, évidemment. On sait bien que ce n'est pas Israël tout seul qui va céder. Il faut que nos autorités, dans tous nos pays, fassent les pressions indispensables pour qu'Israël, enfin, accepte de respecter le droit international. Et cette flottille a cet objectif majeur. L'objectif est bien sûr d'arriver à Gaza, ça c'est très clair. Mais nous savons que toutes les étapes avant Gaza sont d'une importance extrême.
Et d'ailleurs, effectivement, on pourrait citer la lettre ouverte que vous avez produite à l'intention du président Macron. Et qu'en est-il? Oui, alors, y a-t-il eu là une réponse officielle qui vous a été remise ou des réactions? Et puis le deuxième volet de la question, c'est qu'en est-il des politiques? Y en a-t-il qui prennent fait et cause ou qui, à tout le moins, relayent ces initiatives?
Alors, concernant le président Macron, nous n'avons eu aucune réponse, ce qui ne nous surprend pas parce qu'il répond rarement à nos sollicitations au niveau de la Palestine. Bon, en plus, vous n'ignorez pas qu'il est dans un tourbillon politico-personnel actuellement. Donc, évidemment, je pense que la flottille, pour lui, a un intérêt mineur par rapport à M. Benalla et tous les soucis qu'il lui crée. Mais bon, nous n'avons pas de réponse officielle de l'Élysée. Et par contre, nous avons aussi envoyé des messages à beaucoup de nos élus parlementaires et autres. Et là, nous avons des soutiens qui apparaissent. Sinon, les soutiens politiques que nous recevons sont des soutiens des partis et mouvements de gauche. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous n'avons pas réussi à atteindre des franges plus larges du spectre politique en France. Et c'est un de nos enjeux, justement, pour l'après. Oui. Pour la fin de la flottille, c'est-à-dire l'après-passage à Gaza, c'est qu'il faudra absolument que nous arrivions, en utilisant Sarah et Pascal, en utilisant tout ce que nous avons comme documents, à gagner du terrain à la fois dans l'espace médiatique, dans l'espace populaire, mais dans l'espace politique hors la gauche.
D'accord. Et concernant les médias, est-ce que là, vous observez plutôt un relais qui se fait assez facilement ou à l'inverse, justement, plutôt un déni ou en tout cas une difficulté à relayer les informations?
Eh ben, c'est la même chose que de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire que les médias de gauche nous relaient, les autres non, et quant aux grands médias traditionnels, c'est silence radio absolu, et à croire qu'ils sont aux ordres, alors bon, je le dis pas, parce que ce serait sans doute être un peu parano, mais le silence est tel quand même que c'est un petit peu surprenant. D'autant plus que, et c'est à noter quand même, ils parlent de Gaza assez régulièrement. Il parle de morts aujourd'hui, hier, il parle des 150 blessés hier, sur les grands médias, on l'a entendu passer, et sur la flottille, rien. Mais nous savons aussi d'expérience que l'ambassade d'Israël en France fait des pressions considérables à tout niveau pour qu'on ne parle évidemment pas de cette flottille. Vous avez peut-être suivi l'affaire de notre escale à Paris avec les voiliers qui passaient par les fleuves. Et où nous savons, parce que la personne concernée nous l'a dit, que l'ambassadrice d'Israël à Paris a fait des démarches fortes pour que nous ne puissions pas accoster dans un des ports qui était prévu dans Paris. Donc nous savons que leur travail de sape est constant et qu'il est une réalité avec laquelle il faut faire. Et je pense que d'une certaine manière, ça s'étend au niveau médiatique, ce qui est inacceptable, mais soyons réalistes, ça semble fonctionner assez bien.
D'accord. Alors, on a une personne ici, Philippe, qui va te poser une question.
Oui, il me semble que aussi à Paris, parallèlement aussi, justement, le problème d'accoster dans un port à Paris avait été mentionné. Mais rien que le passage sur la Seine, des gens s'étaient mis donc en bord de Seine pour manifester leur soutien. Et ils ont été agressés, on ne peut pas dire autrement, par la police, anti-émeute, etc. Ça a vraiment tourné au vinaigre. Et même des bagarres avec la fameuse FDJ qui ont tristement connu en France.
Je mettrai un petit bémol à ça. On ne va pas dire qu'il y a eu d'agression de la police. Il y a eu un barrage absolu pour que les manifestants ne puissent pas descendre sur le quai. Donc nous, moi j'étais sur l'un des bateaux, hein, donc on voyait ça de l'eau. Alors nous étions encadrés de manière tout à fait agressive par la brigade fluviale parisienne, et qui nous a donc empêchés d'accoster. Et nous voyions très bien, en contrebas donc du rassemblement, cette rangée de policiers qui interdisait l'accès, et sur l'avenue juste au-dessus, des rangées de cars de CRS et autres, qui voulait de toute évidence empêcher toute manifestation possible. Voilà. Ceci dit, il n'y a pas eu de violence de la police cette fois-là, et on s'en félicite. Mais il y a eu une obstruction politique majeure que nous faisons remonter, non pas à la mairie de Paris, mais beaucoup plus haut, au ministère de l'Intérieur, très certainement, qui, sur ordre, hein, on n'imagine pas autrement, a donc interdit que nous accostions pour rencontrer... y compris Monsieur Lang, Monsieur Jack Lang, qui est un ancien ministre bien connu en France,
oui, oui,
et qui est
aussi
actuellement directeur de l'Institut du monde arabe, qui est quand même quelque chose d'important à Paris. Et c'est là que nous avions rendez-vous, si je puis dire, on devait accoster là pour que lui descende et nous rencontre. Et il était sur le quai avec Madame Chahid, ancienne ambassadrice de Palestine en France, avec l'ambassadeur actuel, avec des élus de la représentation nationale. Et ils se sont vus interdire l'accès. Et finalement, M. Lang et Mme Chahine n'ont pu accéder au quai, mais trop tard. Et quant aux autres manifestants, ils n'ont absolument pas pu accéder. C'était un déploiement de force, mais aussi ridicule que violent dans l'image.
Comment est-ce que tu expliques cette disproportion justement des mesures mises en œuvre typiquement justement autour de des eaux territoriales à Gaza, sachant que justement le fait de voir ces militaires agresser de cette manière-là des personnes qui viennent en s'annonçant comme pacifiques, en ayant, parce que si j'ai bien compris cette année sur les bateaux il y a également des médicaments.
Oui.
Voilà, alors, mais après ça, tu me répondras après sur le contenu des bateaux. Mais voilà, comment est-ce que tu expliques cette disproportion-là ? Est-ce que ce n'est pas que se tirer une balle dans le pied, finalement ?
C'est exactement ce que je pense aussi. Et je ne comprends pas que l'opinion internationale ne réagisse pas davantage. Quand on voit ces navires de guerre, qui sont extrêmement impressionnants, hein, parce qu'il y a les gros navires de guerre, il y a des moyens, puis il y a les vedettes rapides semi-rigides, il y a les zodiacs qui balancent de l'eau avec les jets violents. Et là, il y aura trois bateaux, un ancien chalutier et deux bateaux de plaisance, de voiliers, portant des civils et portant effectivement environ 150 caisses de médicaments. On sait à quel point les médicaments sont nécessaires à Gaza sous blocus. Et ils vont vraisemblablement se faire intercepter par une armada militaire surarmée. C'est complètement surréaliste. On se dit que le monde est fou. Mais je pense qu'Israël peut se lancer, enfin les autorités israéliennes, hein, bien sûr, oui, peuvent se lancer dans des choses aussi démesurées parce que justement, ils bénéficient de l'impunité. Ils veulent tellement nous faire peur, ils veulent tellement nous empêcher d'y arriver qu'ils mettent des moyens complètement disproportionnés. Mais comme on les laisse faire, bon, pourquoi pas, hein. Et la population israélienne dans son ensemble, très malheureusement, laisse faire aussi. Ça, je crois qu'il faut vraiment le dire. Mmh. On a vu des images absolument terribles au moment de la répression la plus violente à Gaza, de gens qui, à la frontière, observaient les tirs contre les civils de Gaza. On avait vu en 2014, de même, des gens pique-niquer sur l'espèce de colline au-dessus de Gaza quand les bombardements étaient les plus intenses. Bon, ça, ce sont des extrémistes, certes, mais le gros de la population israélienne, très malheureusement, soutient son gouvernement. Mmh. Et nos camarades israéliens anticolonialistes sont d'autant plus remarquables de prendre les positions qu'ils prennent qu'ils vont complètement à contre-courant de leur société.
Oui, absolument. Et ça, c'est bien de le dire également, comme tu le fais d'ailleurs. Dis-moi, alors, la dernière escale, c'était la Sicile, et puis ensuite, le voyage se poursuit donc jusqu'à Gaza, enfin, jusqu'aux eaux territoriales de Gaza. Qu'en est-il de l'état d'esprit à bord, en sachant qu'à l'aune justement des eaux territoriales, est-ce que l'enthousiasme prime encore ? Est-ce qu'il y a quand même une partie d'appréhension ? Comment est-ce qu'on se sent à bord ?
Alors, les toutes dernières nouvelles datent de tout à l'heure, hein, et elles viennent de Al Aouda et de Freedom, le grand voilier. Effectivement, une certaine tension commence à se faire jour parce qu'ils savent que les méchants, entre guillemets, risquent d'intervenir maintenant dans quelques heures. Mais l'enthousiasme demeure, ça c'est évident. On a eu un nouveau témoignage de Sarah, on a le témoignage de Jonathan Shapira dont je parlais tout à l'heure. Sur le Freedom, on a eu le témoignage relativement court d'un journaliste qui est à bord, qui s'appelle Soudan, et qui dit la même chose. Freedom est un peu en arrière, il est un petit peu en retard sur Al Aouda, qui n'est plus très loin des eaux de Gaza. Et non, l'enthousiasme est intact parce qu'ils sont sûrs qu'ils ont raison, que leur engagement est juste et qu'ils font ce que devraient faire les États, que nous faisons tous ce que devraient faire les États. Ce sont eux qui prennent les risques, hein. Ce ne sont pas nous à terre, mais ce n'est pas nous à terre. Mais ils savent que malgré le risque qu'ils prennent, la cause est belle, comme on dit, et leur engagement est non seulement honorable, mais ce sont des justes au sens fort du terme, au sens historique du terme. Et donc, malgré cette crainte qui se fait jour, évidemment, qu'ils soient violentés par la soldatesque israélienne, ils restent enthousiastes devant l'objectif et sachant à quel point on les attend à Gaza, bien entendu.
Oui, absolument. Et alors, comment ça va se passer maintenant? Tu l'as dit, donc le moment clé est imminent. Est-ce que vous avez un contact constant? Est-ce que les personnes vont pouvoir communiquer? Et puis, parce que c'est maintenant le moment clé, c'est de savoir si effectivement quelque chose va être possible. Et puis ensuite, ce sera de le plus rapidement possible, j'imagine, de prendre les mesures qu'il faut.
Oui, bien sûr. Alors oui, on est en contact avec les bateaux, bien sûr. Ils ont des téléphones satellitaires, hein, donc on est en contact sans problème. Et il est donc prévu si ou quand cela se produit d'être prévenu immédiatement. Il y a à bord de Al Aouda des journalistes de Al Jazeera aussi qui vont filmer jusqu'au dernier moment et envoyer jusqu'au dernier moment. Si les Israéliens font comme d'habitude, ils vont évidemment tenter de brouiller les communications. Donc pour nous, le moment critique va être quand on n'aura plus de communication. Oui. On saura que l'attaque est imminente et qu'à ce moment-là, il faut que nous fassions savoir partout que nos amis et camarades sont attaqués par l'armée israélienne et qu'on s'adresse à tous les dirigeants des différents pays concernés ayant des ressortissants à bord, afin qu'ils prennent des mesures. Nous, comme tu le disais tout à l'heure, on a demandé évidemment à M. Macron que la France protège ses ressortissants et l'ensemble de la flottille. Même s'il ne nous a pas répondu, il est évident que la demande est enregistrée parce qu'ils savent depuis longtemps, ça fait plusieurs fois qu'on leur écrit quand même. Donc j'espère qu'ils prendront les mesures. Les consulats sont prévenus aussi, donc les mesures consulaires seront prises immédiatement. Vraisemblablement, ils seront amenés de force, comme les fois précédentes, à Ashdod, qui est un port dans le sud d'Israël, mis en centre de rétention, interrogés, etc. Et alors là, ils ont aussi, dans la formation non violente qui leur a été procurée, ils ont aussi des indications sur comment réagir, c'est-à-dire pas se laisser impressionner par ces gens qui vont au moins les agresser verbalement. Il n'y a pas de violence physique hein, dans ces cas-là, mais durant l'interrogatoire, je veux dire. Mais des violences verbales, bien sûr, donc ça c'est fait. Alors ce que nous pouvons craindre aussi quand même en termes de violence physique, puisque ça s'est déjà produit, c'est qu'au moment de l'arraisonnement, quand ils montent à bord, ils s'en prennent au capitaine et des membres d'équipage, des hommes d'équipage. Il y a des hommes et des femmes hein, dans les équipages, mais ils s'en prennent en général aux hommes et on les a vus à plusieurs reprises utiliser des tasers. Vous savez, ces pistolets qui donnent oui. des charges électriques violentes et les utiliser de manière féroce. Donc ça, on le craint évidemment. Certains des militants qui sont à bord ont déjà vécu deux, trois flottilles. Ça leur est déjà arrivé et malgré ça, ils sont là. Moi, je suis complètement admirative devant leur courage et leur détermination. Oui. Donc, il faudra très vite qu'on sache tout ça et qu'on intervienne immédiatement au niveau diplomatique et au niveau juridique, bien sûr.
Oui. Alors, de notre côté, a priori, normalement, on termine l'émission à 17h, donc là, on peut se permettre quelques minutes de dépassement. Donc, on va remercier toute l'équipe de Fréquence Banane à Lausanne et à Genève ici. Et puis, on a encore quelques questions si de ton côté, ça va aussi, Claude.
Oui, bien sûr.
Très bien, alors on prend encore quelques minutes. J'aurais voulu justement arriver maintenant qu'on a parlé de tout ça, à ce que tu précises justement, alors tu l'as déjà dit tout au long des réponses, hein, de connaître exactement qui y a dans ces bateaux, qui sont les personnes qui sont là et quel matériel ces bateaux transportent-ils pour bien mettre en évidence justement cette portée pacifique et d'entraide qui est vraiment la centralité de cette flottille.
Je pense que ce que l'on a voulu à chaque fois, c'est que ces bateaux soient l'expression de la société civile, comme on dit, du peuple, des différents pays. Alors nous avons quelques citoyens lambda, nous avons des journalistes, nous avons des élus, nous avons des personnalités de différents pays, nous avons des médecins, nous avons des marins, évidemment. Sur Alauda, par exemple, il y a 8 membres d'équipage, hein, c'est un bateau qu'il faut mener... ce sont des professionnels, ils sont absolument remarquables dans leur travail. Et nous avons, c'est assez intéressant, eu un roulement. C'est-à-dire qu'ils sont partis à la mi-mai du nord de l'Europe, hein, de Norvège-Suède, et il y a eu par escale des renouvellements, à la fois d'équipage, à la fois de participants, de manière à ce que ça implique énormément de gens. Et je pense qu'au bout du compte, là, on est à... plus d'une centaine de personnes qui auront été à bord à un moment ou un autre et qui auront apporté leur témoignage et qui continueront d'apporter leur témoignage, y compris donc auprès de leurs autorités. Il y a eu y compris des députés de certains pays arabes, ça c'est intéressant, c'est relativement nouveau. Il y a une députée indonésienne aussi, c'est aussi même si on sait que l'Indonésie est très 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 solidaire. Donc on a vraiment une représentation très très multiforme. Pour ce qui nous concerne, nous en France, c'est Sarah dont tu lisais un extrait du
journal
tout à l'heure qui nous représente. Alors Sarah, elle représente le mouvement de solidarité en France, c'est-à-dire le collectif national Palestine et la plateforme des ONG françaises pour la Palestine dont je suis la présidente et qui coordonnent ensemble l'accueil toutes les escales en France de la flottille. Donc, on a sollicité Sarah pour qu'elle nous représente, sachant que Sarah est juive et qu'elle est membre de l'Union juive française pour la paix, et qu'elle parle donc à deux titres. Elle parle évidemment en tant que citoyenne française solidaire du peuple palestinien, mais elle fait aussi valoir le fait qu'elle est juive et que sa présence sur ce bateau n'est pas du tout par hasard. Donc, vous voyez, et il y en a d'autres, hein, dans d'autres pays. Donc, j'ai parlé de Yonatan Shapira. Nous avons aussi Zohar, qui est israélienne et qui a accompagné plusieurs flottilles et qui est une femme absolument remarquable aussi, comme Sarah, qui est complètement déterminée à s'opposer à la politique de son gouvernement. Il y a eu des Palestiniens sur certaines escales, sur certains tronçons. Donc, on a vraiment, je pense, un échantillon, j'aime pas le terme, enfin bon, représentatif des sociétés civiles des différents pays concernés. Et je pense que ça parle à l'opinion publique. On n'a pas, évidemment, cette fois-ci, on en a eu parfois, mais on n'a pas cette fois-ci des vedettes ou des gens particulièrement, des célébrités, on va dire. Ça n'a pas été le choix cette fois-ci. Mais je pense que ça parle tout autant à nos opinions.
D'accord. En termes de matériel, donc tu l'as dit, des médicaments.
Des médicaments, énormément de matériel médical. Il y a eu beaucoup de dons qui ont été faits et qui ont permis d'acheter à Naples, c'est à Naples que les achats ont eu lieu, qui ont permis d'acheter beaucoup de médicaments, mais surtout du matériel médical, on sait à quel point les hôpitaux de Gaza en manquent, hein, parce que l'afflux des blessés, des handicapés, des mutilés, et aussi un aspect de trauma psychologique très fort, évidemment. Les médecins sont complètement démunis devant, les médecins palestiniens sont complètement démunis devant cet afflux de victimes de la répression israélienne. Et les hôpitaux manquent de tout. Alors, il manque en plus, évidemment, d'électricité pour faire fonctionner leurs appareils, puisque on sait qu'actuellement, Gaza n'a qu'environ 3 heures d'électricité par 24 heures. S'il n'y a pas de livraison de fuel qui permettrait de faire fonctionner les générateurs, ils sont vraiment dans une situation terrible. Et ce matériel médical qui, espère-t-on, va arriver, va soulager un peu, pas beaucoup bien sûr, mais un peu. Et en tout cas, il a une valeur symbolique très très forte. C'est de dire que d'autres peuples dans le monde soutiennent la Palestine et Gaza, et y compris, ils sont parfaitement conscients que la situation médicale est dramatique, la situation sanitaire globalement est dramatique, et qu'on tente d'y remédier à notre mesure.
Dis-moi, qu'en penses-tu? Si ça passe, si la flotille perce, est-ce que c'est l'effondrement de l'embargo, en tout cas les prémices de l'effondrement de l'embargo qui, voilà, qui étrangle Gaza depuis, tu l'as dit, quasiment 12 ans?
Si le flottille passe, ça veut dire que pour une raison qui serait à déterminer parce qu'elle n'apparaît pas du tout pour l'instant, les autorités israéliennes décideraient donc que finalement ce n'est pas bien dangereux pour elles de laisser passer nos bateaux. Mais comme nous savons que leur volonté de maintenir Gaza sous embargo est intacte, on vient de le voir encore, hein, ils ont même fermé le point de passage de Kerem Shalom où passaient encore quelques camions de temps en temps. Bon, ils le rouvrent, semble-t-il, mais bon. Donc leur volonté semble absolument inaltérable sur l'intensité du blocus. Donc, l'idée de les laisser rentrer, ces bateaux, pour eux, ça doit être inacceptable. S'ils les laissaient rentrer, ce serait effectivement un appel d'air énorme pour d'autres flottilles, pour d'autres militants solidaires pour tenter d'entrer à Gaza. Et ça, c'est surtout ce qu'ils ne veulent pas. Puis, il ne faut pas oublier aussi que leur volonté, c'est d'étrangler Gaza économiquement. Hein, quand j'ai
Bien
parlé tout
sûr.
à l'heure des pêcheurs, donc, les pêcheurs, ils ne peuvent pas sortir non plus. Donc si ces bateaux rentrent, ça veut dire aussi que d'une certaine manière, le blocus maritime est enlevé, les pêcheurs pourraient sortir. C'est pourquoi on n'y croit vraiment pas beaucoup. D'autant plus que ils savent aussi, puisque c'est très public, que nos bateaux, si nous entrons, vont rester à Gaza, évidemment. On va donner ces bateaux à la Houda, qui est un bateau de pêche qui sera très facilement retransposé en bateau de pêche. Et puis les deux voiliers qui peuvent servir aussi. Donc les bateaux resteront à Gaza. Donc c'est un appel aussi à la solidarité des gens de mer, etc. C'est pas étonnant d'ailleurs qu'on ait été si bien reçus dans tellement de ports, hein, dans toutes nos escales. On a fait une vingtaine d'escales et partout l'accueil a été remarquable. La solidarité des gens de mer, c'est pas non plus quelque chose que les Israéliens apprécient, hein, à ce niveau-là. Et donc, je me refuse à être pessimiste et à dire que nous ne passerons pas parce que parfois la volonté est quelque chose de fantastique. Rappelons-nous Obama, we can, yes we can.
Non, non,
Donc,
mais c'est clair. À un moment donné,
on va
il
dire qu'on
faut.
va y arriver, mais il faudrait que les autorités israéliennes aient radicalement changé de position en 24 heures, là.
D'accord. Et puis alors dis-moi, est-ce que de votre côté, vous vous projetez déjà un après flottille justement comment dire, en pensant à certains scénarios, comme justement le fait que voilà, ça passe ou ça passe pas. Est-ce qu'après, je veux dire, quand je dis se projeter, c'est au-delà du moment où effectivement il va falloir rapatrier toutes les personnes, il va falloir soigner toutes les blessures, quelles qu'elles soient, physiques, morales, tout ça. Est-ce que voilà, vous vous projetez déjà dans une futur flottille en disant voilà, là on va bien observer ce qui se passe, on va en tirer des enseignements pour pouvoir à nouveau, dans un an, dans 2 ans ou quand, essayer de remettre le couvert et de repartir avec une flottille?
Oui, alors la première chose à faire, ce sera évidemment d'accueillir nos amis quand ils vont rentrer dans les différents pays. Et alors, comme toujours, quand on a des grandes missions comme ça, on se donne des délais et puis on prend toujours du retard. Et nous sommes bien sûr partis plus tard que prévu originellement, ce qui fait que l'arrivée se fait à un moment qui n'est pas du tout propice, hein, en termes de communication. Fin juillet, début août,
Oui,
ça n'est pas facile, mais il n'empêche que nous allons essayer d'organiser peut-être une conférence de presse ici ou là, des rencontres avec les autorités. Nous allons donc d'abord accueillir nos camarades. Après, nous les ferons tourner, entre guillemets, un peu partout en France pour ce qui nous concerne, afin qu'ils témoignent. Mais bien évidemment, nous allons prévoir la suite. Et la suite, ça va être pas forcément une flottille l'année prochaine ou même l'année d'après. Ça va être comment continuer à travailler contre ce blocus, comment continuer à expliquer à nos opinions publiques que la population de Gaza vit un enfer colonial, en fait, et que ça ne peut pas durer davantage. L'année dernière, la dernière fois, pardon, il y a 2 ans, nous avions tenté autre chose avec simplement des femmes à bord d'un bateau, hein, donc un bateau que de femmes à tous les niveaux. Ça avait eu un impact médiatique important. 2 ans auparavant, nous avions tenté autre chose qui était de faire partir un bateau de Gaza. On l'avait appelé l'Arche de Gaza. Et c'est un vieux bateau de pêche que nous étions en train de, avec les Gazaouis évidemment, que nous étions en train de remettre en état. Donc ça, c'était en 2014. Et comme par hasard, un missile est tombé dessus pendant l'attaque israélienne contre Gaza. Mais donc, on a toujours beaucoup d'imagination, on a toujours beaucoup d'idées. Après, il faut voir ce qui est faisable. Je sais très bien qu'il y aura toujours énormément de militants et de militantes qui seront prêts à repartir et à prendre des risques pour combattre cette injustice épouvantable qui est faite aux Palestiniens, particulièrement à Gaza. Quels seront nos projets? C'est trop tôt pour en parler. Là, on va encore une fois récupérer nos amis, organiser l'après Flotille 2018. Et après, on va se remettre à penser tous ensemble à comment continuer à se battre contre ce blocus qui est une abomination.
Ouais. En tout cas, nous, de notre côté, on salue évidemment le courage vraiment là, qui a cours dans ces flottilles-là. On va également dire qu'effectivement, ici, en tout cas, à Genève, il y a quand même la société civile et quelques associations qui se battent, hein, qui sont solidaires du peuple palestinien. On va citer notamment la Fondation humanitaire, parce qu'on en a parlé récemment avec eux, concernant justement ce blocus, et eux-mêmes, justement, essayent d'amener des médicaments, des choses comme ça. Le collectif Urgence Palestine, ainsi que Génération Palestine, sont parmi les organisations ici à Genève qui œuvre, et nous-mêmes essayons de relayer tout ça. Comment, selon toi, est-ce qu'on peut continuer d'aider lorsque l'on est loin de tout ça, peut-être pas en état justement physiquement de pouvoir être offensif de cette manière-là? Pourrais-tu nous dire quelques pistes pour pouvoir aider toutes ces personnes?
L'essentiel, c'est l'information, et donc là, vous avez un rôle vraiment important à jouer, parce qu'il y a quand même cette espèce d'omerta, hein, au niveau, comme on disait tout à l'heure, des grands médias, partout. Sur cet engagement militant solidaire. Et je pense qu'il faut que les gens sachent. On est beaucoup trop souvent dans une espèce d'entre-nous, militants, gauche, humanitaire, etc. Ça ne suffit pas. Donc il faut informer partout, que ce soit au niveau médiatique ou au niveau des représentations politiques et diplomatiques partout d'ailleurs. Hein. Vous avez en plus des sièges d'organisations internationales évidemment extrêmement importantes. Il faut peut-être les démarcher, leur envoyer des coupures de presse, des dossiers de presse, etc., leur faire connaître nos sites, leur faire connaître les gens. Je ne sais pas si tu as vu que sur le site Freedom Flotilla et sur le nôtre, Flotille de la Liberté pour Gaza France, il y a énormément d'informations qui peuvent être relayées
les lettres
de manière
modèle.
Positive,
ouais,
je pense.
Tout à fait.
Votre rôle, c'est une agitation médiatique de votre société, en fait.
Écoute, en tout cas, on prend bonne note. On va effectivement terminer doucement cet entretien en citant justement les sites internet. Alors, tu l'as dit, il y en a un, c'est jfp.freedomflotilla.org. La page Facebook, alors Facebook, il y a Flotille Gaza France, hein, lorsque l'on va sur Facebook. Freedom Flotilla Coalition également. Il y a un compte Twitter, un compte Twitter Gaza Flotilla avec deux F.
Oui, deux L, oui. Un T, deux L, oui. Il y a Ship to Gaza Norway et Ship to Gaza Sweden aussi, puisqu'ils sont très impliqués dans la flottille. Ce sont des sites en anglais, mais bon, beaucoup des gens qui nous suivent peuvent s'en débrouiller.
Et puis, il y a une page Instagram également. C'est ça, qui s'appelle instagram.com/GazaFreedomFlotilla.
Oui, voilà.
Donc voilà, ça, ce
et
sont.
Et puis, on peut trouver aussi pour nous sur le site de la plateforme Palestine, hein, plateforme-palestine.org, ou de France Palestine Solidarité, France-palestine.org. On peut aussi trouver un certain nombre d'informations, mais moins évidemment que sur notre page Facebook dédiée, bien sûr.
Et puis, l'Union juive pour la paix. C'est ça.
Oui, aussi, bien entendu,
ça,
oui.
Ça, c'est vrai que c'est un site. Voilà, c'est vrai que là, nous, on a pu effectivement déjà pas mal trouver d'informations là également. Je crois qu'on a fait à peu près le tour, en tout cas, des sites internet, ou bien y a-t-il quelque chose à ajouter encore?
Non, je pense que effectivement, on a fait à peu près le tour là.
D'accord.
Si déjà les auditeurs sont incités à aller lire toutes ces informations et voir toutes ces photos et vidéos. Je pense que c'est important.
D'accord. Écoute, Claude, je te remercie énormément d'avoir pris tout ce temps pour répondre à nos questions.
C'est important.
Ah ben oui, nous allons en tout cas, évidemment, nous tenir informés. Et pourquoi pas te ressolliciter pour effectivement peut-être avoir un après-flottille et pourquoi pas où ces personnes-là traverseraient la France. Pourquoi pas faire un coup de la Genève, en tout cas. Nous, on en serait ravis.
Oui.
En tout cas, voilà.
D'accord.
Dis-moi.
Et moi, je vous tiens au courant de la suite des événements.
Ouais. Et alors voilà, tu reçois en tout cas toute notre force d'âme et de cœur de toute l'équipe de
merci.
Libre Radio en tout cas. Et puis, courage pour la
beaucoup.
Suite alors. Voilà, je te remercie. Alors, à bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Eh bien, voilà, nous arrivons doucement au terme, enfin non pas doucement, rapidement au terme de cette émission, puisqu'on a dépassé quand même d'une bonne quinzaine, un petit peu plus, quasiment d'une vingtaine de minutes. Alors voilà, nous arrêtons ici pour notre émission La Comète à la Banane. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission particulière, puisqu'elle sera en direct et en public depuis le collectif Beaulieu. Donc ce sera dans le parc où se trouvent les serres de Beaulieu. C'est au Grotte derrière la gare, c'est magnifique. D'ici là, on te souhaite une bonne semaine. On remercie toute l'équipe de Fréquence Banane à Lausanne et à Genève. Et on se dit à la semaine prochaine. Ciao.